Au seuil de cet évangile qui est court, mais extrêmement riche, une question peut se poser à nous. Qu'est-ce qu'un lépreux dans la Bible ? Que lui est-il prescrit ? C'est au livre du Lévitique qu'on peut l'apprendre, un des cinq premiers livres de la Bible, qui compose ce qu'on appelle la Torah. La loi. Voici ce qu'on lit. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés, les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera « impur, impur ». Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. Vêtements déchirés, cheveux en désordre, autoproclamation de son impureté, expulsion hors du camp. Ces hommes sont contagieux. On doit pouvoir les reconnaître de loin. Le lépreux est donc porteur d'une quadruple peine. Il est malade, sale, exclu, humilié. N'est-ce pas la définition d'un pauvre, un vrai pauvre ? Une seule chose réunit ces hommes ensemble, ils sont tous lépreux. Tels sont les 10 hommes qui cherchent à s'approcher de Jésus afin de se faire entendre. Et vous avez pu entendre que le texte précise qu'il s'arrête à distance. Il respecte donc la loi. Il est important de remarquer que ces hommes ne demandent pas d'être guéris. Mais ils demandent que Jésus prenne pitié d'eux. C'est la pitié de Jésus que ces hommes réclament. C'est très exactement ce que peut réclamer un pauvre, la pitié. Chacun de nous peut faire l'expérience de ses propres pauvretés, autrement dit de ses lèpres. Ce sont ces défauts que nous avons, dont nous avons plutôt honte et que nous cherchons à cacher aux autres et parfois même à nous-mêmes. Et Jésus sait tout cela, comme il savait ce que portaient et supportaient ces 10 lépreux. Jésus connaît leur humiliation, leur saleté, leur expulsion. Dépourvus de presque toute dignité, ils en sont venus à demander à Jésus sa pitié, sans savoir au juste ce qu'ils allaient recevoir en retour. Nous faisons souvent cette expérience dans la rue, à Paris notamment, des gens qui vous demandent par pitié, puis « Khalas, va-t'en, ça va ». C'est ça la pitié. De même, nous ne savons jamais ce que nous recevrons en retour de l'humble offrande à Dieu de ce que nous sommes là où nous en sommes. C'est ça, être pauvre. Les pauvres, c'est justement le thème central de la toute récente exhortation apostolique du pape Léon, Dilexité. N'allez pas la chercher au magasin cet après-midi, elle n'est pas encore arrivée. Elle est sous presse. Dans ce document si important, le pape nous rappelle ce que son prédécesseur, François, nous avait déjà dit. Les pauvres sont au cœur de l'Église. On parle parfois d'options préférentielles pour les pauvres. Une option, c'est un truc qu'on coche ou qu'on coche pas. Eh bien, les pauvres, ce n'est pas une option. non seulement les pauvres pécheurs, mais aussi les pauvres en esprit, les pauvres humiliés, les pauvres dépourvus de tout, y compris de leur patrie. Si jamais vous en doutez, souvenez-vous du diacre Laurent. Alors qu'il lui était demandé de livrer les richesses de l'Église, ce grand diacre de Rome, Laurent, présenta une assemblée de pauvres et déclara « Voici les richesses de l'Église ». Et il va falloir qu'on se convertisse pour y croire. Parce que pour beaucoup, encore aujourd'hui, l'Église des pauvres, c'est une lubie d'un pape qui est arrivé il y a quelques années. Non. Pas du tout. Jésus voit donc dans ces lépreux une richesse de l'Église qu'il va fonder. Quel mystère, quel enseignement pour nous. Ça déménage, hein, ce genre de réalité. Revenons à l'évangile de ce jour. On ne l'a pas vraiment quitté, mais j'explicitais. Par la parole de Jésus, « Allez vous montrer aux prêtres, ces lépreux reçoivent la prophétie de leur guérison. » En effet, le même livre du Lévitique nous apprend que le lépreux doit aller se montrer au prêtre lorsqu'il est guéri. Donc s'ils y vont, s'ils obéissent, c'est qu'ils savent qu'ils vont être guéris. C'est la loi qui demande ça. Pour ces lépreux, recevoir l'invitation d'aller se montrer au prêtre, c'est donc recevoir l'annonce de leur guérison. Ils doivent donc y donner une certaine foi. Et ils le font tous, puisque le texte nous informe qu'ils vont vers ces prêtres. Cette guérison va justement intervenir durant leur route vers Jérusalem. Tous vont se rendre compte qu'ils sont guéris. Donc, tous doivent aller se montrer aux prêtres pour que les prêtres puissent confirmer la guérison, comme le demande la loi du Lévitique, et que les lépreux guéris puissent réintégrer la communauté. Mais le texte nous apprend que l'un d'entre eux revient sur ses pas. Cet homme est un étranger. Nous apprenons même que c'est un Samaritain. Les Samaritains sont aux yeux des Juifs des hérétiques. C'est pas seulement un étranger, c'est aussi un hérétique. Car pour les Samaritains, il faut adorer sur le mont Garizim et non pas à Jérusalem. Voici sa cinquième pauvreté, sa cinquième peine. Ce Samaritain ne pouvait pas aller à Jérusalem car il en aurait été expulsé. Vous voyez comme cela peut enrichir notre compréhension de l'Évangile d'aujourd'hui. Il doit revenir. Il ne peut pas bénéficier de la confirmation sacerdotale de sa guérison. C'est parce qu'il est exclu, c'est parce qu'il est encore plus pauvre que les autres que Jésus va lui déclarer quelque chose d'incroyable. Mais pourtant, quelque chose ne va pas. Si ce Samaritain ne pouvait pas aller à Jérusalem, quel mérite a-t-il à revenir vers Jésus ? En vérité, la question ne se pose pas en termes de mérite, elle se pose en question de termes beaucoup plus importants. Et ça nous concerne tous. Du côté des neuf autres, rien ne permet de reconnaître leur foi. Ils sont seulement guéris. Ils n'ont aucun mérite à l'égard de cette guérison, tout comme le Samaritain. Ils pourront rentrer dans la communauté. Leur vie de pauvreté sera peut-être même terminée. Mais c'est tout. C'est tristement. Le Samaritain, lui qui est encore plus pauvre, va connaître quelque chose de différent. Tout d'abord, cet homme se prosterne devant Jésus afin de témoigner de sa reconnaissance d'avoir été guéri gracieusement de sa lèpre. Il a perdu tout respect humain. Il est désormais libre de ses règles sociales qui l'empêchaient de vivre. C'est ça son acte de foi. Il est revenu. Ça n'a rien à voir avec l'acte de confiance qu'il avait posé avec les 9 autres en partant pour se montrer malgré tout au prêtre, en sachant qu'il ne pourrait pas finalement. En se prosternant, il manifeste sa reconnaissance et sa foi en Jésus. Il témoigne auprès de tous ceux qui en sont témoins de la puissance de Jésus et de sa miséricorde. Les 9 autres ne transmettent rien. Ils sont guéris ou à khalas. C'est tout. Le Samaritain, au contraire, entend Jésus proclamer sa foi. Et cela va encore plus loin, car Jésus ajoute « Ta foi t'a sauvé ». Cet homme, tellement plus pauvre que les autres, n'est pas seulement guéri, comme le sont les 9 autres, il est aussi sauvé, ce que ne sont pas les 9 autres. Et ce Samaritain n'est pas sauvé parce que Jésus l'a guéri, mais parce qu'il est revenu se prosterner devant Jésus pour lui dire sa reconnaissance. Voilà ce qui le sauve. Voilà ce qui permet à Jésus de lui offrir le salut. Le Samaritain reconnaît en Jésus un sauveur et en conséquence, il est sauvé. Au fond, c'est sa pauvreté plus grande. C'est sa pauvreté plus grande qui lui permet de bénéficier d'une grâce plus grande. Et sa reconnaissance aussi, car comme le dit saint Bernard, c'est l'ingratitude et elle seule qui nous empêche de progresser dans notre vie spirituelle. Vous savez peut-être que c'est le deuxième partie du message que Jésus délivre à Sainte Marguerite Marie à la Coque. Je profite de le dire à l'occasion de la sortie du film sur le Sacré-Cœur. C'est l'ingratitude qui est la source de tous nos maux. Les 9 lépreux sont dans l'ingratitude. On fait partie des 9 ou pas ? Cela doit nous parler, frères et sœurs. Nous pouvons nous aussi n'être que guéris. Le baptême, ça guérit. Si vous êtes ici, c'est probablement que vous êtes tous baptisés. Mais êtes-vous sauvés ? En sortant du confessionnal, nous pouvons nous réjouir d'avoir été guéris, et nous le sommes en vérité. En communiant au corps du Christ à la messe, fût-ce spirituellement, si nous ne pouvons pas communier, nous le sommes en vérité. Nous pouvons nous réjouir de la guérison que Jésus nous apporte, car il le fait en vérité. Mais pour être sauvés tout entier, il nous reste à revenir sur nos pas. Nous aussi, à reconnaître notre indigence et à dire à Jésus notre reconnaissance. Cela consiste à venir nous prosterner, nous aussi. Venir dire à Jésus merci pour son pardon. Merci pour le don de son corps. Merci pour sa grâce. Après avoir communié, un certain nombre de personnes font ce qu'on appelle une action de grâce. Et alors Jésus a droit d'entendre une liste de demandes. Mais jamais un merci. C'est incroyable. On pourrait commencer par lui dire merci d'être venu, merci d'être là, merci pour cette messe aujourd'hui. Merci. C'est ça ce qu'a fait ce lépreux. Merci. Sans cela, nous risquons de passer à côté de la plénitude de la vie que Dieu veut nous donner et de n'être que des consommateurs des grâces divines, sans proclamer la gloire de Dieu qui obtient le salut. Le salut est donné, mais il faut encore venir le recevoir et en être reconnaissant. Puissions-nous être de ces pauvres qui proclament la gloire de Dieu et reçoivent de Jésus cette parole incroyable : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. »